Toutes et à tous, que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous. Et la grâce de Dieu, elle est là. Si nous sommes là présents, c'est parce que la grâce de Dieu nous y a menés. Il y en a beaucoup d'autres qui auraient dû être là, mais ils n'ont pas suivi la grâce de Dieu. Il faut toujours être derrière cette grâce, car cette grâce nous fait vivre. Et nous allons le voir aujourd'hui. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. On voit jusqu'où il va cette grâce de Dieu. On va lire du verset 46 à 54. Il nous raconte une histoire dans laquelle chacun de nous il est passé peut-être, ou il y passera. Et ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, ce que nous ayons la même réflexion qu'il a eu cet homme. Donc, lisons Évangile de Jean, chapitre 4, le verset 46 jusqu'à 54. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et il le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Voilà encore une merveilleuse œuvre du Seigneur. Ici, nous ne savons pas exactement de quoi l'enfant souffrait. Si ce n'était qu'il avait une grosse fièvre et il était sur le point de mourir, nous ne connaissons ni son nom ni son âge. Nous avons ici ce qui doit être la peur la plus profonde de chaque parent, c'est-à-dire de perdre son enfant. Ça, c'est la grande peur que chaque parent il a. Normalement, on dit toujours, n'est-ce pas, les enfants, ils doivent partir, les parents, ils doivent partir avant les enfants. Et ici, ce père, il voit son enfant qui est prêt à s'en aller, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu qu'il y avait quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Voilà pourquoi c'est quelque chose que nous devons apprendre et faire comme cet homme il a fait, détourner nos yeux vers celui qui seul peut nous délivrer. Cet homme, il avait la peur au ventre. Pourquoi? Parce que encore une fois, enterrer son propre enfant, vous vous rendez compte? C'est quelque chose de très pénible. Et c'est une tragédie. Et nous prions Dieu en silence lorsque cela il nous arrive. La mort, on le sait qu'elle est réservée à tous. Et ça peut venir à n'importe quel moment. Mais lorsque cette mort, il intervient pour un enfant, cela il nous touche encore plus. Il y a un docteur qui disait, quand votre enfant est malade, vous ne vous souciez pas qu'est-ce qu'il doit faire, ou le prise de sang, ou radio, ou je ne sais pas quoi. La seule chose que vous voulez savoir du docteur, c'est est-ce que mon fils, il va guérir? Parce que c'est trop dur pour un parent de perdre son enfant. Nous avons ici un homme important. Un homme important qui a eu une conversation importante avec Jésus. Son enfant était malade. Et le résultat de cette conversation, c'est glorieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il a manifesté sa puissance. Et encore, c'est ce qu'il y a encore de plus, c'est que Jésus n'a jamais rencontré cet enfant. Et encore plus puissant, c'est que cet enfant, il était loin de Jésus. Il était loin de Jésus. Et cette histoire raconte comment la foi, il peut grandir. Comment la foi, il peut grandir dans un cœur. Et vous savez, aucun d'entre nous ne naît de la famille de Dieu. Aucun. Nous venons au monde avec cette nature pécheresse. Et pour avoir cette foi, c'est Dieu qui nous la donne à un moment donné. Personne n'est né enfant de Dieu. J'ai eu le cœur très attristé hier soir. J'ai vu une vidéo dans laquelle le pape, il était en réunion avec toutes les religions qui peuvent exister, judaïsme, musulman, voilà, tous ensemble, et il disait, nous sommes tous enfants de Dieu. Comment peut-on dire ça? Quelqu'un qui doit représenter Jésus-Christ, quelqu'un qui dit qu'il croit dans la parole de Dieu. L'évangile de Jean, il est clair, il est net, chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? En recevant Jésus-Christ. Comment on peut dire ça des musulmans? Comment on peut dire ça des témoins de Jéhovah? On ne peut pas. On n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Et ici, il nous montre cet homme qui n'était pas enfant de Dieu. Comme nous sommes venus au monde, n'étant enfant de Dieu. Et on voit cette foi que cet homme n'avait pas, on voit à travers la conversation qu'il a eue avec Jésus, cette foi qui prend naissance, cette foi qui grandit au point que Jésus, il intervient par un grand miracle. Et ça, c'est le cheminement par lequel chacun de nous, il est passé, ou il passera, ou il doit passer. Car il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans cette discussion, ces textes, ils nous révèlent plusieurs étapes dans lesquelles on voit que cette foi de cet homme, il grandit. La première étape, on la trouve, c'est la crise. Il nous est dit, il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Le fils était malade. Il y avait en lui cette crise qui l'a poussé vers Jésus. La crise de sa vie. C'est souvent la crise, c'est dans la crise que la foi démarre. C'est lorsque les choses vont mal qu'on lève les yeux au ciel. C'est lorsque les choses vont mal. Et ici, cet officier, il a fait cela. Son fils était malade, il avait la fièvre, il était près de mourir. Et alors, Il a levé les yeux au ciel. Il a levé les yeux au ciel. Cet homme-là, il est appelé officier du roi. Sûrement qu'il était à la corte d'Hérode Antipas. Hein? Hérode Antipas. Il devait être riche. Il devait être quelqu'un de puissant. Hein? Et quelqu'un qu'il était, que les gens y craignaient et les gens y respectaient. Comme quoi, les choses, ils arrivent à ceux qui sont riches et à ceux qui sont pauvres. Les choses, ils arrivent à ceux qui sont bien portants et qui ne le sont pas. C'est qu'il faut avoir ça dans notre propre esprit, que des fois, Dieu, il intervient par ces choses-là pour nous faire tourner les yeux vers lui. C'est vrai que des fois, on se demande pourquoi. Pourquoi ça m'arrive ça? Hein? Qu'importe l'argent qu'on peut avoir? C'est ce qui m'a étonné dans cette histoire. C'est que cet homme qui avait les moyens, il n'a pas essayé de dire, tiens Jésus, je te donne de l'argent que j'ai guéri mon fils. Non, il ne l'a pas dit. Et ça, quelqu'un qui a de la puissance, quelqu'un qui a les moyens, c'est la première chose qu'on met devant. Non, cet homme-là, il s'est tourné vers Jésus parce qu'il était dans la difficulté. Il a vu que son fils, sans l'intervention de Jésus, son fils, il serait mort. Et vous savez, il y a un dicton arabe, je vous le dis, je vais vous le lire. Les chagrins et un chameau noir qui s'agenouille à chaque tente. Chameau noir, c'est un peu comme le chat noir. Hein? Vous savez, lorsqu'un chat noir il traverse votre rue, on dit, ça porte malheur. Et ici, les Arabes, un chameau noir. Mais c'est ce que cet officier, il ne comprenait pas. Ce que ces chameaux ou ces chats noirs, hein, il est passé là parce que Dieu, il avait un message à lui dire. Et ça, c'est des choses qui arrivent à chacun de nous, encore une fois. Il peut y avoir des difficultés, des souffrances qui doivent nous amener à lever les yeux vers le Seigneur. Et c'est justement c'est ce qui est arrivé à cet homme. Ce que les pères ne savaient pas, c'est que c'était ce lourd fardeau de ces chameaux, c'est Dieu qui l'a envoyé. Pour qu'il puisse encore une fois tourner ses yeux vers le Seigneur. Par la maladie, Dieu a attiré son attention. Il n'y a plus de remède sur la terre. Qui peut aider? Qui peut m'aider? La deuxième étape, c'est l'humilité, la crise, deuxième étape, l'humilité. Et il dit, ayant appris que Jésus était venu des Judées en Galilée, il alla vers lui. Pourquoi est-ce qu'il a été vers lui? Il nous a dit que il avait entendu parler de ce charpentier de Nazareth, qu'il avait le pouvoir de guérir le malade. Et alors, instantanément, cet homme, il a préparé son plan. Il dit, puisqu'il n'y a rien autour de moi qui peut relever mon fils, cet homme-là, j'ai entendu qu'il guérit, alors je vais aller le voir. Et je vais lui demander de venir à Capernaum, parce qu'on vient de lire que Jésus, il est retourné à Cana. De venir à Capernaum pour qu'il puisse soigner mon fils. Cet homme ne sait pas encore qui est Jésus. Il ne le sait pas. Il a juste entendu dire. Entendu dire. Vous savez, il y a un verset dans l'Épître aux Romains qui dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où est-ce qu'il lui est venu cette idée d'aller vers Jésus? Il vient de Dieu pour le pousser vers lui. Et donc, il a entendu. Il ne connaît pas Jésus, il ne sait pas qui c'est, mais il a juste entendu parler de ce miracle. Il aurait pu envoyer ses serviteurs, parce que c'est un homme puissant. Non, il ne l'a pas fait et il y a été lui-même. Et pourtant, lui, c'était quelqu'un que, lorsqu'il voulait quelque chose, il avait juste à commander. Et les gens, ils lui obéissaient. Et ici, l'humilité, il va vers Jésus, vers cet homme. Lui-même, il y va. Il n'en voit pas quelqu'un, mais lui-même, il y voit. C'est donc à cause du désespoir qu'il fait les voyages. Il voulait tenter pour la guérison de son fils. Il ne connaît pas l'avenir, mais il a entendu dire que Jésus, il peut guérir son enfant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la guérison de notre enfant, c'est la chose la plus importante dans nos familles. Parce que le Seigneur, il nous a donné ses enfants. Et nous devons les élever. Et nous aimons bien lorsqu'ils sont en bonne santé. Et lorsqu'ils sont malades, voilà, notre vie, il tombe en panne, comme on dit. Mais l'humilité, il va lui-même. Troisième étape, c'est la requête. La requête, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Très belle prière. Et seulement ceux qui sont dans le besoin, ils savent dire des mots comme ça. On s'accroche à Dieu comme si Dieu il nous lance la corde. On s'accroche. Et nous devons faire confiance à Dieu lorsqu'il nous lance la corde. Parce que là, il avait entendu que Jésus, il pouvait guérir son fils, et paf, tout de suite. Dieu, il désire que nous prenions cette corde, car c'est la main miséricordieuse de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas des choses dans ce monde pour guérir, alors Dieu, c'est le seul résultat. On ne peut pas faire autrement. Et la prière de cet homme-là, elle est merveilleuse. Elle est faite d'une façon claire, concise. Sa prière est simple. Il dit, Jésus, viens et guéris mon fils. Elle est simple. Ce n'est pas un truc de théologie. Il avait quelque chose, il va le voir et il lui demande, Jésus, viens et guéris mon fils. Il savait ce qu'il voulait. Qu'est-ce que c'est qu'il voulait? Que Jésus vienne. Que Jésus vienne. Il savait de quoi il avait besoin. Guérir son fils. Et aussi, il savait pourquoi. Parce que son fils, il était prêt de la mort. Et c'est exactement le cheminement que chacun de nous, il doit faire lorsque, en entendant cette parole de Dieu, qui nous dit que nous sommes pécheurs, et nous devons nous tourner ainsi vers le Seigneur. Seigneur Jésus, viens, pas guéris mon fils, mais viens guéris-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il demande à Jésus de venir à lui, avec lui. Viens avec moi. Il demande la guérison. Nous devons demander la guérison de notre cœur, car notre cœur est mauvais. Notre cœur est mauvais et on a besoin, et il a besoin d'être changé. Qui peut le changer? Jésus seul. Jésus seul. Et il savait pourquoi il invitait Jésus. Parce que mon fils est malade. Pourquoi est-ce qu'on doit inviter Jésus à venir à nous? Parce que nous sommes des pécheurs. Parce que notre cœur est mauvais. Parce que nous sommes morts. Parce que nous n'avons pas la vie éternelle. Voilà pourquoi. C'est exactement la prière qu'il faut faire et que nous avons fait, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Il disait, mon fils, il peut mourir à n'importe quel moment. Il faut que tu viennes de suite. D'un côté, C'est une foi positive. Il faut que tu viennes. Mais de l'autre côté, c'est aussi une foi négative. Pourquoi? Parce que il dit au Seigneur, il faut que tu viennes. Comme pour dire, si tu ne viens pas, mon enfant, il ne guérira pas. Il voulait diriger la façon de se comporter des dieux. Viens et mon enfant, il va guérir. Mais Dieu, c'est Dieu qui est souverain en toutes choses. C'est Dieu qui a la toute puissance. On ne peut pas commander à Dieu de faire quelque chose ou comment la faire. Lui, il sait les choses mieux que nous. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il a d'un côté la foi positive. Oui, viens Jésus et guéris mon fils. Et de l'autre côté, la foi est négative parce qu'il veut, diriger Dieu. Il veut le commander. Viens. Pourquoi? Parce que lui, en tant qu'officier du roi, il commande les gens. Et on voit ici que, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'utilise pas l'argent. Il n'utilise pas les moyens qu'il a. Je vous ai raconté cette histoire de cette femme qui avait sa fille qui était malade. Et alors quelqu'un il lui a dit, voilà, pour que ta fille il guérisse, il faut que tu lui donnes du raisin qui se trouve dans le jardin du roi. Alors cette femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été trouver le roi. Et il a dit, il faut que tu me donnes le raisin que tu as dans ton jardin, parce que ma fille est malade. Je vais te donner 10 000 euros. Le roi, il a dit, non, non. Allez, je te donne 20 000. Non, non. 100 000. Non, non. Il a dit, je ne te donnerai pas ce raisin-là. Elle est partie toute triste. Alors, il a raconté ça aux voisins. Et il a dit, voilà, le roi, il n'a pas voulu me donner le raisin pour guérir ma fille. Il a dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, je lui ai dit que je lui donnerai de l'argent. Et il a dit, c'est pas ça. Le roi, il n'a pas besoin de ton argent. Tu lui aurais demandé, donne-moi du raisin pour que ma fille vive. Il te l'aurait donné sans rien te demander. Comme il a fait la Samaritaine. Hein? Jésus, il a dit, donne-moi à boire. Et il lui a dit, si seulement tu connaissais les dons de Dieu, je t'aurais donné de l'eau, moi, à boire. Jésus ne demande rien. Dieu ne demande rien. Pourquoi? Parce que tout est payé. C'est Jésus-Christ qui a tout payé. Lorsque le peuple d'Israël, après avoir passé 70 ans à Babylone, 70 ans, ils s'étaient terminés les châtiments de Dieu. Alors il y a Cyrus, Dieu il a touché le cœur de Cyrus, il a dit « Rentrez à Jérusalem pour reconstruire les temples ». Ils étaient esclaves, ils n'avaient rien. Mais Cyrus il leur a dit « Rentrez et une fois là-bas, vous demandez de l'argent au roi qui s'y trouve, au gouverneur qui s'y trouve et avec mon autorisation, ils vont vous donner. Tout est payé ». C'est exactement ce que le Seigneur Jésus il a fait pour nous. Tout est payé. Nous n'avons rien à dépenser. Esaïe, il nous dit, achetez sans payer, achetez sans argent. Pourquoi? Parce que Dieu a tout pourvu. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Il ne le méritait pas. Il ne faut pas utiliser nos propres richesses pour toucher les cœurs de Dieu. Car ces richesses, encore une fois, c'est Dieu qui nous les a données. Dieu, il n'a pas besoin de nous. S'il est intervenu en notre faveur, c'est parce qu'il nous aime. Comme il a dit les frères, on a chanté trois cantiques de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il est intervenu. Et pas pour notre jolie tête. Dieu, il nous aime. Et il a manifesté cet amour en envoyant Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné, il ne l'a pas en échange, non, il l'a donné. Et c'est Jésus qui a payé à notre place. C'est Jésus qui est mort à la croix. Et ici, on voit la requête. Viens, Jésus, viens et guéris mon fils. Viens, guéris mon fils. Et on voit la quatrième étape, c'est la persistance. C'est la persistance de cet homme. Il lui a dit, Jésus, viens pour guérir mon fils. Et Jésus, on voit dans ce verset, il dit, Jésus, il lui répond. Regardez ce qu'il lui répond, Jésus. Si vous ne voyez des miracles, des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. On dirait qu'ici, on a l'impression que Jésus est un peu sec, un peu rude. Et même qu'il est irrité. Parce que, voilà, cet officier qui va, Jésus descend, mon enfant est malade, et Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Alors lui, la persistance. Il n'a pas discuté. Et il a dit, viens Seigneur Jésus, viens guérir mon enfant. C'est comme si cet officier, il lui dit, moi, des miracles, de toutes ces choses-là, je n'y connais rien. Mais je sais une chose, c'est que, tu peux. Si tu viens, tu peux guérir mon enfant. C'est ça la persistance dans la foi. Car rien, il doit nous arrêter. Même si on a devant nous des situations dans lesquelles on les trouve ingérables, où il n'y a plus de secours. Encore comme cette femme qui avait la perte de sang, vous vous en souvenez? Normalement, dans le peuple d'Israël, c'était des gens impurs et ils ne devaient pas rester parmi les gens. Mais il s'est faufilé et lorsque Jésus il passait, il l'a touché. Jésus automatiquement, Jésus est Dieu, hein, il sait tout. Et il a dit aux disciples, quelqu'un m'a touché. Et les disciples ont dit, mais t'as pas vu les gens qu'il y a ici? Bien sûr que quelqu'un t'a touché. Non, Jésus l'a dit, quelqu'un m'a touché avec une foi spéciale. Et il a dit, qui m'a touché? Et cette femme, elle a eu le courage de dire, oui, c'est moi, Seigneur, qui t'a touché. Et il fallait avoir ce courage, il fallait avoir cette foi de croire que Jésus, en touchant Jésus, il serait guéri. Parce que les gens, ils ne devaient pas rester parmi les gens. Il était impur. Jésus, il a senti qu'une force est sortie de lui. Pourquoi il a senti ça? Parce que celle qui l'a touché, encore une fois, il avait la foi. Et en se manifestant devant tous, il a encore plus manifesté sa foi. Voilà, il dit ici, il a dit, je ne comprends rien. Parce que le Seigneur, il a dit, il parlait au peuple qui était autour de lui. Il dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas ce que je suis. Parce que c'est arrivé lorsqu'il a fait la multiplication des pains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à manger à 5000 personnes. Il s'est éloigné les jours après, ou des jours après. Et alors là aussi, il y avait plein de gens qui l'attendaient un miracle. Et Jésus, il leur dit, je sais que vous êtes venus là pour manger. Pas pour croire en moi. Et voilà pourquoi il dit, si vous ne voyez pas de miracles, vous ne croyez pas. Mais ici, les centurions, toujours avec cette persistance, cette foi qui grandissait en lui, il lui a dit, Seigneur, je ne connais rien à ces miracles, moi. Je ne me suis jamais occupé des miracles ou d'autres choses. Mais je sais une chose, c'est que, voilà, tu peux venir et guérir mon enfant. Vous voyez la foi comme petit à petit. Il avait entendu. Il s'est humilié et petit à petit, il a avancé. Il a fait la requête au Seigneur et ici, il persiste encore. Et la persistance, c'est quelque chose que le Seigneur, il nous exhorte à faire. Ne nous arrêtons pas. Dis, j'ai prié le Seigneur pour ça et ça et ça, mais il n'y a aucune réponse. N'arrêtons pas. Car Dieu, il a encore son temps. Pour l'exécution. Il connaît toutes choses avant nous. Il connaît ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas. Nous, avec notre cœur mauvais, on demande des choses qui ne sont pas bonnes. On croit qu'elles sont bonnes, mais Dieu, il connaît toutes choses. Et il connaît les temps lorsqu'il doit intervenir. Le peuple juif, il a crié pendant 400 ans en Égypte de lui envoyer le libérateur. Mais rien n'arrivait. Mais dans Galates, il nous a dit, mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils. Lorsque le temps fut accompli, Dieu, il a envoyé Moïse, le libérateur. Et Jésus, c'est exactement, c'est notre libérateur. Mais il faut persister, ne pas nous arrêter. La persistance dans la prière. La cinquième étape, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Jésus lui dit, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Voilà, cet homme-là, il se présente à Jésus et lui dit, « Descends, parce que mon fils est malade. Descends et guéris-le. » La réponse de Jésus, « Non, le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. » Il lui dit, « Descends. » Mais Jésus, il dit, « Va. » Juste un mot. La foi de cet homme, il avait rejoint le point où il a cru en Jésus. Jésus lui dit, « Va, que va faire cet officier ?» Imaginons-nous, imaginez-vous que vous vous trouviez à la place de l'officier. Il dit, « Jésus, viens à la maison, mon fils est malade, descends avec moi. » Et Jésus lui dit, « Va, mais ton fils vit. » Pour croire, il fallait avoir une foi, n'est-ce pas? Ça aurait été nous, on aurait un peu discuté avec lui. Ah non, il faut que tu sois là. Mais Jésus lui dit, vois. Là encore, on voit la toute-puissance de Jésus-Christ. Que Jésus, même à distance, il peut faire des miracles. Et aussi, on voit l'omniprésence de Jésus. Car où il était cet enfant, Jésus, il y était aussi. Dieu, il est partout. Et lorsqu'il dit « va », ce que la présence de Jésus à l'autre côté, il a déjà accompli. Si cet homme, il n'aurait pas suivi. Un peu comme le général, vous en souvenez, Naaman. Il était malade du cancer. Et alors, il avait entendu dire qu'en Israël, il y avait un prophète qui il pourrait le guérir. Alors, il a écrit au roi en Israël. Et le roi lui a dit, mais je ne peux rien faire. Et alors, la servante lui a dit, va le voir. Et le prophète lui a dit, écoute, tu es malade, va et tu te plonges cette fois dans le fleuve du Jourdain. C'était un homme très important aussi. Et il a dit, il n'y a pas d'autre fleuve que tu m'envoies dans ce Jourdain-là. La servante qui lui avait proposé le prophète, il lui a dit, écoute, il t'a dit de le faire, fais-le. Il l'a fait et il a été guéri. L'obéissance. Lorsque Dieu il dit quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas se dire oui, mais comment? Non, il faut le faire. Peut-être que cette obéissance, il va nous coûter, ou peut-être qu'il est contre notre propre pensée. Mais si Dieu l'a dit, il faut le faire. Ne nous posons pas la question, car Dieu, il connaît les choses mieux que nous. Et il vaut mieux l'obéissance à toute autre chose. Le peuple d'Israël, là, c'est pareil. Ils croyaient qu'en accomplissant des œuvres, en faisant des sacrifices, en observant les sabbats, en faisant des offrandes, en allant au temple, ils seraient agréables à Dieu. Et Amos, il est venu, il leur a dit, « Je n'ai rien à faire de vos sacrifices, de vos sabbats, de tout ce que vous faites, soi-disant à mon honneur. Ce que je vous demande, c'est d'obéir. » C'est d'obéir. Samuel, c'est pareil avec le roi Saül. Il lui a dit, attends-moi, Je vais venir dans 7 jours. Et alors on va partir et on va combattre. Le peuple d'Israël, il a commencé à... Il arrive le 5e jour, le 6e jour, Samuel n'est pas là. Le 7e jour, il n'est pas là. Et alors Saül, il a pris la responsabilité de faire lui-même les sacrifices. Le sacrifice. Mais la journée, le 7e jour, n'était pas finie encore. Il offre les sacrifices, chose qu'il ne devait pas faire. Dieu lui a dit, attends-moi, je vais offrir les sacrifices et ensuite tu peux aller combattre. Il offre les sacrifices, qui c'est qui arrive? Samuel. C'est ça. Il faut faire les choses comme Dieu les dit. Même s'il nous semble ces choses-là pas justes. Et nos enfants, on les entend souvent, c'est pas juste. Ne faisons pas ça avec Dieu. Dieu est juste, il est saint. Il connaît toutes choses. Tout ce qu'il fait est juste et saint. Et des fois, nous le disons même en nous tournant vers Dieu. C'est pas juste, Seigneur. Oui, c'est juste. Parce que déjà, si nous sommes ici, c'est la grâce de Dieu. Dieu, il aurait dû nous tuer, nous condamner, nous envoyer en enfer, mais il ne l'a pas fait et il nous a sauvés en Jésus-Christ. Car nous ne méritons en rien que le châtiment, que la colère de Dieu. Mais Dieu, il est intervenu en grâce. Voilà là ce que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Cet homme, Jésus lui dit, va. Il n'a aucune preuve extérieure que la parole de Jésus va s'accomplir. Il lui a dit, va. Il n'a aucune preuve. Aucun signe miraculeux. Il a dit, comment tu fais des miracles? Et tu me dis de rentrer chez moi. Il risque la vie de son fils. Parce que si la parole de Dieu ne se réalise pas, son fils, il va mourir. Hein? Augustin, il a dit, la foi... c'est croire ce que nous ne voyons pas. Et la récompense de la foi, c'est de voir ce que nous croyons. Et ça, c'est un peu ce qu'il nous dit dans Hébreux, chapitre 11. Hein? La foi, c'est croire ce que nous ne voyons pas. Notre foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est qui nous donne la vie éternelle. Nous ne voyons pas la vie éternelle. Car tous nous devons mourir. Mais nous croyons que Dieu, Jésus, il nous donne la vie éternelle. Car comme je dis toujours, et vous l'avez entendu, à notre mort, la vraie vie commence. La vraie vie commence à notre mort. Et là, c'est la vraie vie. C'est la vie éternelle avec notre Seigneur et notre Dieu. Et la foi, et celui qui a la foi, c'est de voir ce que nous croyons. C'est ça la foi. Et cet homme-là, lui qu'il dit à Jésus, descend, et Jésus lui dit, va. C'est ça la foi. Croire à ce que Dieu t'a dit. Même si on se dit, mais ce n'est pas possible ça. Et il dit, va. Fais cela. Et nous devons le faire, sans se poser la question. La 6e étape, c'est la confirmation. Et nous lisons, comme déjà il descendait, il rentrait chez lui, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Jésus lui dit, va, ton enfant vit. Il rentre chez lui, ses serviteurs, ils viennent et lui disent, ton enfant est vivant, ton enfant il vit. Voilà, et il leur demandait l'heure, où il s'était trouvé mieux, et lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Voilà, et c'était juste à la 7e heure que Jésus lui avait dit, ton enfant vit. Et c'est là qu'il y a eu la confirmation de ce que Jésus était, de ce que Jésus est, de ce que Jésus avait la puissance de faire. Et avec cette assurance, On voit la septième étape. Jésus, cet homme, il s'est engagé avec Jésus. Il nous a dit, les pères ont reconnu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Toute sa maison. C'est-à-dire qu'il a eu un témoignage dans sa maison, positif. Il a parlé à Jésus avec tout le monde. Ce n'est pas toute la maison qui a été automatiquement comme lui qui a eu la foi. Non, mais lui, c'est pareil. Il a parlé à toute sa maison. Il a vu la façon d'agir des dieux et les gens, il a cru en Jésus-Christ. Lui et toute sa famille. Sa foi était si complète que toute la famille s'est tournée vers Jésus. C'est comme cet homme qui avait été guéri par le Seigneur. Et il lui a dit, rentre chez toi. Il a dit, Seigneur, permets que je reste avec toi. Je veux vivre cette chose avec toi. Je veux vivre de ta présence. Jésus lui a dit, non, rentre chez toi. Et raconte à ceux de ta maison ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce que nous devons faire. Le Seigneur il nous a laissés ici-bas comme des témoins. Et nous devons dire à tous ceux qui nous entourent, nous devons le dire à tous ceux, il y a Jésus, il m'a donné la vie, il a pardonné mon péché. Et ce que Jésus il a fait pour moi, il est prêt à le faire pour toi. Et lui, mais oui, mais tu sais, j'ai commis beaucoup de péchés, je suis un grand pécheur. Mais Jésus, il est venu pour ça. Et il a dit, je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi. Personne, il sera refusé. Parce qu'il est venu pour cela. Donc, voilà ce que cet enseignement il nous donne. Hein? La réponse de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, encore une fois. Il connaît toutes choses. Et parce qu'il est Dieu, il faut s'attacher à lui. Comme il a dit les frères, cherchez d'abord les royaumes de Dieu. D'abord quoi? D'abord toutes les choses qui nous entourent. Toutes les festivités, tous les mariages auxquels les gens ils nous invitent. Si nous sommes des chrétiens, des vrais chrétiens, si nous mettons Dieu à la première place, même si nous participons à ces choses, nous savons que nous avons quelque chose à faire. Nous amusons, car Dieu, il n'a pas dit, ne vous amusez pas, ne faites pas la fête. Non, mais nous savons qu'à un certain moment, il faut quitter pour nous occuper des choses de Dieu. Car le monde, mes amis, mes frères et sœurs, il est rentré dans l'Église. Je ne parle pas d'ici à Argenteuil, il y est aussi, hein, mais partout dans le... Partout, dans toutes les églises, le monde, il est là. Et Jean, il nous l'avait dit, hein, qu'il y a des gens dans les assemblées qui n'appartiennent pas à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes responsables de ce qui est enseigné. Car Satan, il va essayer de se mêler, d'apporter des choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est à nous. Nous sommes les gardiens de notre Église. Mais si nous ne faisons pas attention, sachant que dans notre Église, il va rentrer toute espèce de croyance. Alors, nous voulons rester fidèles au monde ou nous voulons rester fidèles à Dieu? C'est ça. Voilà pourquoi il faut remettre notre vie entre les mains de Jésus-Christ. Car c'est lui et lui seul qui peut être la solution à tous nos problèmes. Il faut mettre notre foi en lui. Et une fois que nos problèmes ils sont résolus, ne pas dire, bon, maintenant, je laisse de côté Jésus, oh Dieu. Non, il faut persévérer. Il faut persévérer, car c'est dans la persévérance que notre foi il peut avancer constamment. Et Jésus, il nous le dit, crois en moi et tu seras sauvé. N'abandonne pas, car je suis la source de l'eau vie. Si tu as soif, tu as juste à venir me voir et tu boiras de l'eau vive, pas de l'eau de source, mais de l'eau vive. Et vous n'aurez plus soif, car Jésus est suffisant pour toutes choses. Voilà pourquoi, encore une fois, je vous invite à faire confiance à ce Jésus. Car Jésus, en étant Dieu, il peut nous donner tout ce dont nous en avons besoin. Il nous répond, il nous demande qu'une chose. Ayons foi. Demeurons fidèles. Et alors Jésus, il va intervenir dans notre vie. Même s'il y a de gros problèmes, Jésus, il va intervenir. Car il nous a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et nous avons un Dieu qui écoute les prières. Un Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de l'impossible. Des choses que les hommes disent, c'est impossible ça. Non, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Dieu, il intervient où l'homme ne peut plus, il peut rien faire. Mais Dieu, il est tout-puissant. Ouvrons nos yeux et tournons nos yeux vers le Seigneur. Ayez le regard fixé sur Jésus-Christ et pas sur le monde. Car le monde, il est ennemi de Dieu. Voulons-nous être amis de Dieu ou ennemis de Dieu ? À chacun de nous de donner la réponse. Amen.